Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Natasha Birds, artiste, créatrice et inspiratrice. Natasha a commencé à partager sur Internet il y a près de 10 ans maintenant et continue à fasciner aujourd'hui de par sa créativité. Dans cet épisode, on échange sur le rôle de l'image sur les réseaux sociaux et comment réussir à s'en détacher, ce qui a conduit Natasha à devenir créatrice de contenu, notamment du fait qu'elle soit devenue maman à 23 ans sans que cela ait été prévu, le déni de grossesse qu'elle a vécu et comment elle y a fait face. On échange aussi sur le fait de travailler en couple et comment préserver son amour et ne pas se lasser, autant dans la vie amoureuse que professionnelle, et Natasha nous partage pour cela ses conseils pour continuer à nourrir sa créativité et apprendre à se renouveler. Si tu découvres In Power, tu n'es peut-être pas encore abonné, tu peux le faire directement sur l'application que tu es en train d'utiliser et également laisser un petit commentaire si tu apprécies cet épisode. C'est gratuit et ça fait vraiment très plaisir, je les lis tous. Et je suis ravie maintenant de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Natasha.
Hyper complexée pendant très longtemps et je crois qu'à un moment donné j'ai préféré me dire pas je m'en fous de mon physique mais vas-y table sur autre chose tu vois, c'est cool d'être connue je sais pas pour ta créativité, c'est cool d'être connue pour, mais j'ai pas envie d'être connue pour mon physique en fait. Et j'ai pas envie qu'on me dise toute la journée, ah, t'es trop belle, t'es trop. C'est pas mon goal dans ma vie,
ouais,
tu vois.
Ouais,
je préfère qu'on me dise
rien.
Ce que t'as fait, ça m'a touchée, ou c'est joli ce que tu fais. Là, ça me touche beaucoup plus. Mais à un moment donné, je me suis juste dit, en fait, arrête de vouloir, d'avoir en tête, de vouloir être la plus belle, parce que c'est nul, ça te rend mal, ça te rend. Et du coup, maintenant, je suis un peu moins regardante, tu vois.
Carrément.
Mais quand tu passes des heures devant ta tête, quand tu les montes, forcément, il y a un moment donné où tu dis putain, merde, je suis comme ça quand je fais ça. Ah merde, j'ai comme ça de profil. Tu vois, ça te fait un petit peu mal et c'est pas facile, je trouve, de se voir toute la journée, de se retoucher toute la journée.
Ouais.
Tu vois, limite, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et que t'aies que les belles photos qui
à
te regonflent ton ego.
Ouais.
Mais ouais, je peux comprendre qu'elle psychote un peu.
Non, c'est compliqué en fait. C'est vrai que c'est le problème un peu de faire un métier d'image. Je sais
ouais.
pas si. Toi, t'as toujours voulu faire ça ou le podcast est lancé, by the way.
Il est en
J'aime
direct,
bien faire des immédiats stress. Mais ouais, je me demande, toi, est-ce que t'as choisi cette voie? Est-ce qu'elle elle s'est imposée à toi? Comment ça s'est fait?
Non, en fait, si tu veux, moi j'étais en CDI. J'étais web designer, graphiste. Et j'ai appris ma première grossesse hyper tard. J'ai fait un genre de début de déni de grossesse. Du
ouais.
coup, quand j'ai appris cette grossesse, j'ai été alitée directement.
T'étais à combien de mois?
J'étais à presque 5 mois.
D'accord.
J'ai entamé le 5e mois. Donc, mon médecin m'a demandé d'arrêter de bosser. Et je me faisais chier chez moi. J'étais très jeune, j'avais 23 ans, j'avais pas prévu d'être maman. Enfin, voilà, c'était un énorme chamboulement dans ma vie. Et j'avais pas spécialement le droit d'énormément bouger de chez moi. Tu vois, il fallait que je me repose. Donc, et j'étais à l'époque à Paris, dans un 20 mètres carrés. Et c'est la période où ils ont décidé de refaire le ravalement de l'immeuble. Donc, si tu veux, il y avait des mecs qui étaient aux fenêtres tout le temps. Donc, j'avais les volets qui étaient fermés presque H24. Et du coup, le petit échappatoire que j'avais trouvé, c'était de regarder les blogs de maman, tu sais, qui racontent les récits d'accouchement. Ça me rassurait. Je me disais qu'à force de les lire, en fait, j'avais l'impression de dédramatiser et de connaître certains langages, de comprendre c'était quoi une péridurale, de comprendre, ok, c'était comme ça que ça se passe. Enfin, ça me rassurait énormément. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais lancer moi aussi mon blog, pourquoi pas après tout. Mais c'était plus pour montrer mes dessins au début, tout doucement. Et en fait, cet aspect à l'image, il est arrivé hyper tard. Au début, je me montrais pas du tout. Je montrais mes dessins, je montrais les petits do-it-yourself que je faisais pour mon bébé à venir, le dessin du faire-part, des petites choses comme ça. Et tout doucement, j'ai commencé à me montrer, je pense, pour montrer des looks. Mais c'était pas du tout... C'était pas du tout calculé, je m'étais jamais dit tiens, je vais me lancer dans le blog
et ça va devenir ma carrière.
Ouais, je vais en vivre ou je vais montrer mon visage ou tu vois, c'était il y a 8 ans.
Ouais.
À l'époque, on n'en vivait pas, on n'était pas payés, on recevait un rouge à lèvres, on était les plus heureuses du monde. Tu vois, c'est tellement loin de tout ce qui se passe aujourd'hui que je pense que personne il y a 8 ou 9 ans pouvait se dire je vais lancer un blog pour en faire ma carrière. Il devait y avoir deux nanas qui arrivent à en vivre. Et encore, tu vois, je suis même pas certaine. Et du coup, ça arrivait tout doucement comme ça, où j'ai commencé à me montrer et ça a pris un petit peu en même temps. Et du coup, ce rapport à l'image, ben, il est arrivé malgré lui et presque tant mieux. Parce que je sais pas si j'avais dû me lancer de moi-même en me disant « Ok, là, je vais lancer mon blog et je vais me montrer si j'aurais été à l'aise avec ça. » Tu vois, si j'aurais assumé mon physique, si j'aurais été assez à l'aise avec ça. Donc, c'est presque bien, tu vois, que ça soit arrivé comme ça.
Bah, ça résonne un peu à ce qu'a dit Delphine de Didi, qui est venue sur le podcast aussi. Parce que je pense qu'elle a commencé à peu près en même temps que toi, peut-être même encore un peu avant.
Avant, ouais.
Et elle non plus se montrait pas. Et en fait, limite, d'un côté, je trouve ça un peu plus sain. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment pour partager soi, partager ses créations ou partager ses mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette prédominance de l'image que je trouve un peu dommage. Alors bon, d'un côté, les podcasts, ça marche de mieux en mieux. Donc, il y a aussi une renaissance un peu de l'audio. Mais c'est vrai que bon, maintenant, il y a des gens qui choisissent de devenir créateur de contenu parce qu'ils veulent cette renommée ou j'ai l'impression que c'est vrai qu'on va dire les raisons à votre génération étaient vachement plus saines quoi. C'était en fait toi t'avais juste envie de partager ce que tu faisais et que quelqu'un le lise limite ou non c'était pas grave
exactement,
quoi.
Exactement, il y avait rien à gagner en termes d'argent, il n'y avait rien de monétaire et il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas, la carotte en fait qui te donne envie d'avancer. La seule carotte qu'il y avait, c'était toi et
ta passion quoi.
Et ouais, et l'envie de partager. Et il y avait 8 lectrices qui devaient être ma tante, ma mère et mes 3 potes. Tu vois, c'était vraiment pas fait dans la même envie. Après, il y a une part aussi qui est peut-être un petit peu de notre faute, on a tellement déballé, montré toutes ces belles choses qu'on recevait que forcément ça donne envie et c'est hyper compréhensif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs, de créatrices qui arrivent aujourd'hui en se disant « je vais le faire » et comme ça j'aurai accès à des voyages, j'aurai accès tu vois, à des collabs cool, j'aurai accès à des cadeaux et c'est hyper compréhensif quand tu vois les autres, ça peut donner envie. Du coup, ça nuit un petit peu au métier aussi parce qu'on se retrouve heureusement avec des personnes... tu vois, actuelles qui sont hyper passionnées et t'en as beaucoup qui arrivent et tu te demandes...
Un beau opportuniste, quoi.
Ouais, pourquoi, pourquoi en fait, pourquoi vous voulez être connue? Enfin, des fois, il y en a qui me demandent comment t'as fait pour être connue et je leur demande, mais tu vas être connue pourquoi, en fait? Je sais pas, tu fais de la photo, tu chantes, tu dessines, t'as une ambition, tu vois, politique, quelque chose. Non, juste, je veux être connue, en fait. Et c'est ça qui est dur, c'est de vouloir être connue pour soi, juste pour être connue. Et il y a eu, les réseaux sociaux, il y a eu la télé-réalité, toutes ces choses qui font que maintenant, il y a des gens qui sont connus pour... parce qu'ils sont eux, mais qui font rien de spécial.
Est-ce qu'ils apportent quelque chose, une valeur?
Nous, c'est vrai qu'à j'ai l'impression d'être une vieille, mais de notre temps, tu vois, il n'y avait pas... tu ne pouvais pas, en fait, faire un blog pour espérer plus que juste montrer ce que tu savais. Et c'était chouette, tu vois. Il y a des petits moments de nostalgie. Aujourd'hui, les blogs, on ne les lit plus trop. Et,
T'en lis encore, toi, ou pas?
Non.
C'est ça, en fait, moi, je trouve terrible, c'est que... Je suis la première à adorer écrire et lire.
Ouais.
Et pourtant, je ne lis plus de blog.
Ouais.
C'est des époques, c'est des moyens de communication. Par exemple, j'adore les podcasts, donc c'est top. Mais je suis nostalgique d'un truc que même moi, je ne fais plus, tu vois.
Ouais,
parce que limite, ce serait plus crédible si je disais que moi, je les lisais encore. Mais non, je pense qu'on est tellement dans une société de l'immédiateté que
ça,
tu vois, j'ai pas le temps, en fait. Enfin, je me dis que j'ai pas le temps de lire un long article. Alors que franchement, je pense que ça peut apporter beaucoup, quoi.
Je pense que Insta, à un moment donné, tu vois, c'est un peu le support parfait où toutes les personnes que tu suis sont regroupées
sur cette même
application. T'es pas obligé de fermer une fenêtre, ouvrir une autre, taper l'URL, trouver l'article. Là, tout le monde est regroupé sur la même plateforme. Tu peux lire ça on a rien de... Enfin, il n'y a aucun
scroll.
Effort à faire.
Et
le blog, ça demande un certain effort. Et non, moi, j'en lis plus et je suis hyper nostalgique parce que j'adorais ça. Mais je prends même plus de plaisir, en fait, à l'alimenter. Je pense que, YouTube, tout ça, c'est un peu remplacé. Et c'est cool, c'est une nouvelle manière aussi, de partager. Et c'est chouette.
Ça a été fluide pour toi, ce passage aux réseaux sociaux? Parce que du coup, j'imagine que tu as dû les avoir dès le début, quoi, limite.
Ouais, ça a été fluide parce que j'ai eu Insta avant mon blog. Je pense que je me suis inscrite direct sur Insta dès que...
Ça a 8 ans, ça existait ?
Écoute, ça a existé, ouais, parce que je me rappelle avoir posté au moment où mon premier fils est né, c'était un truc entre potes, mais ouais. je me rappelle de photos de grossesse de moi sur Insta. Donc ouais, ça existait, ça j'en suis certaine. Du coup, j'étais déjà présente dessus et comme le blog, ça avait été un truc pas du tout professionnel, pas du tout préparé, pas du tout réfléchi, les deux, ils ont vécu ensemble et ils ont évolué de la même manière. Et quand les deux sont passés, on va dire, un peu côté pro, j'ai repris tout mon compte Insta, j'ai effacé toutes les choses qui ne devaient plus être là. Pareil pour le blog, il y a pas mal d'articles que j'ai mis, tu vois, en archive, que moi je peux revoir ou pas, mais pas les personnes qui visitent mon blog. Mais du coup, ouais, les réseaux sociaux, ça a été assez fluide. Tu vois, il n'y a que Snapchat où j'ai jamais... J'ai jamais
accroché
réussi.
Et tout,
ouais. Ouais, c'est pas pour moi. Je pense que.
Ou TikTok d'ailleurs, je crois que t'es pas sur TikTok.
Ouais, bah alors encore moins. J'ai dû le découvrir il y a 3 mois, encore moins. Ouais. Mais sinon, ouais, Insta directement.
Ok. Et à partir de quand, du coup, tu t'es rendu compte que ça pouvait quand même devenir pour toi une carrière et que du coup, t'es passé du côté employé à.
Ouais, alors écoute, en fait, moi j'ai lancé mon blog du coup quand j'étais en CDI, quand j'ai repris mon CDI après que Noah soit arrivé et j'avais le blog à côté qui transcendait personne, mais qui, voilà, il faisait son petit truc.
Ouais.
Et ça commençait à marcher tout doucement. Je commençais à être contactée par quelques marques. Enfin, c'était tout mignon, c'était tout cool. Et je montrais mes illustrations et je m'étais dit, je vais faire une boutique en ligne et je vais vendre mes illustrations sur des tasses. Des sacs en tissu, des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça qui a pris avant le blog. C'est plus la boutique qui a pris tout doucement. Les blogueuses qui étaient un peu plus connues, voire beaucoup plus connues, me contactaient pour que je fasse leur site, leur blog, leur charte graphique, leur logo et tout. Donc moi, je le faisais en tant que free. Mmh. Et ça me permettait de me rémunérer un peu à côté de mon job. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a permis de partir. C'est vraiment pas le blog. C'est plus
mon free en illustratrice
graphiste. Et quand je suis partie, j'ai continué à faire ça. Et en même temps, je continuais le blog parce que c'était toujours ma passion et que j'adorais toujours ça. Et après, j'arrive pas à savoir le moment où le blog a pris le dessus. Mais après, j'ai arrêté du coup le graphisme et je me suis mise à fond sur le blog. Et c'est que maintenant que je retourne vers l'illustration finalement. Tu
D'accord.
vois, donc, il m'a fallu une petite période de pause côté graphisme. Et j'avais envie de me former sur la vidéo, j'avais envie de me former sur la photo, j'avais envie de toucher à d'autres choses. Et là, j'ai envie de retourner un peu sur l'ILU, mais c'est plus dans ce sens-là que ça s'est fait.
Ok, ouais, non, mais c'est cool, tu t'es écoutée, quoi. T'as pas suivi trop de tendances ou de handi, quoi.
Non, du tout. On l'a fait à l'intuition. Mon mari m'a rejoint au bout d'un an, je crois. Il a quitté son job et il m'a rejoint dans l'aventure.
Ok. Et c'était donc... moi, j'aime juste aussi grave comprendre la vie d'amoureuse et tout. Est-ce que c'était du coup le père de ton premier enfant
aussi ?
Oui,
c'était le père. Okay. Ouais, on est ensemble depuis que j'ai 16 ans.
Ah, j'adore.
et du coup, j'ai eu cette petite grossesse surprise.
Ouais,
donc, on a eu cette petite surprise. Et c'était... Et on était un peu chamboulés, pour
J'imagine.
Être honnête.
Non,
vois,
mais c'est
3
vrai.
Ans, on n'imaginait pas du
c'est
tout ça.
C'est ça.
Mais c'était trop chouette, c'est une super surprise de la vie ça sera à refaire. Je pense qu'on referait exactement la même chose. Et il a quitté son job et il m'a rejoint. Donc là, on travaille depuis 6 ans, 7 ans ensemble sur ce qu'on fait sur les réseaux. Et on a eu notre deuxième petit garçon, du coup.
Mmh.
Et oui, c'est cool parce qu'on se connaît depuis qu'on a 15-16 ans. Et que, tu vois, j'ai passé la moitié de ma vie, en fait, avec lui. J'en ai 30. Donc,
et j'imagine toute ta vie amoureuse avec lui, du coup.
Bah,
ou alors, t'as eu des copains avant 15 ans.
Non, c'est mon premier vrai amoureux.
Non,
c'est mon premier vrai amoureux et c'est trop cool, tu vois, de pouvoir bosser ensemble aujourd'hui. Tout à l'heure, avant le podcast, on parlait, tu vois, tu me disais qu'avec ta sœur jumelle, vous avez grandi ensemble, que du coup, t'as les mêmes références dans la vie, t'as ouais. les mêmes... Mais moi, c'est un peu pareil, en fait. C'est ouais. à la fois mon mari, mon meilleur pote, tu vois,
ton
c'est mon confident,
ouais.
c'est mon bras droit, c'est la personne avec qui je bosse, donc mon ouais. collègue, voire le co-gérant de notre société, ouais. tu vois. Et c'est vrai qu'on a grandi ensemble, on a fait nos premières bêtises, tu vois, d'adolescents ensemble, au lieu de les faire avec nos potes. On a connu les mêmes personnes, on a les mêmes inspirations, les mêmes références dans la vie. Donc bosser ensemble, du coup, c'est hyper chouette pour
ouais,
ça.
Ouais, je
quoi.
Comprends. Mais c'est, en fait, je trouve que pour avoir rencontré des personnes qui sont en couple depuis très longtemps avec leur partenaire et souvent c'était leur première relation sérieuse, ouais. On sent cette alchimie. Moi, je me demande juste vraiment à chaque fois, et j'admire beaucoup en fait la capacité à innover entre guillemets même dans le couple, tu vois.
Ouais.
Je veux dire, à ne pas se lasser, à... parce que l'attachement, je peux comprendre, c'est un
oui,
truc, c'est
sûr.
Très fort,
ouais.
mais ne jamais se dire est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs, ne jamais se dire est-ce que c'est vraiment avec lui que j'ai envie de passer toute ma vie, tu vois. Réussir à se renouveler, en fait.
Ouais.
Et en fait, j'ai l'impression, de ce que j'ai observé, c'est les personnes qui arrivent à évoluer de la même façon, qui restent ensemble. Parce que parfois, j'ai reçu aussi Manu Laurent sur le podcast, qui est aussi blogueuse. Et elle, bah pareil, c'est son premier copain, donc ils se sont mariés. Ça paraissait vraiment très logique. Mais à un moment de sa vie, elle a eu une transformation, qui est notamment passée par une transformation physique. Et qui, en fait, a débloqué plein de choses chez elle. Et en fait, elle se rendait compte qu'elle était plus au même niveau que son mari. Et c'est assez dur, tu vois, à 30 ans, de
ouais,
quitter et de recommencer à zéro.
Bien
et
sûr.
Du coup, je suis assez
ouais.
curieuse, tu vois, de
ouais, ouais,
ce côté...
Enfin,
est-ce que c'était conscient de votre part? Enfin, vous faites des efforts, entre guillemets, pour vous renouveler? Est-ce que ça a toujours été évident
Non, j'ai pas la sensation qu'on fasse des efforts. Je pense qu'on a une vie aussi qui nous permet de se renouveler malgré nous. Tu vois, on a la chance de voyager souvent par notre boulot. Et du coup, de faire des découvertes, tu vois, de ne pas rentrer dans cette routine. On découvre encore plein de choses, on fait des voyages humanitaires ensemble, on se voit l'un et l'autre touchés par quelque chose, on découvre des nouvelles personnes avec qui on travaille, on bouge un peu partout, donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer.
Ouais.
Pour être honnête, on a des semaines assez remplies, des années assez remplies. On est parti vivre, tu vois, un peu loin et on s'est retrouvé que tout, enfin un peu loin, on était en Espagne, hein, c'était pas non plus, mais mine de rien, on était tous les deux et
ouais.
c'était, tu vois, une vraie façon de voir comment on s'en sortait à deux et on a ce quotidien qui nous permet pas en fait presque de s'ennuyer
ouais.
et qui nous offre plein d'aventures humaines qui fait que on se rapproche, que ça nous rapproche encore plus. Le fait de bosser ensemble, pour moi, c'est un vrai plus. Ça nous permet de pas prendre deux voies différentes. On,
ouais.
on est tout le temps ensemble, on vit les mêmes choses. Et il n'y a pas un moment donné, du coup, où on se comprend plus.
Ouais.
Où il va ouais. me dire, tu vois, moi, j'ai envie d'autre chose. On voit tellement la même chose et on prend tellement les mêmes décisions. Tu vois, on est devenus végétariens tous les deux au même moment ensemble. On essaye d'être plus responsables ensemble, on s'informe tous les deux, enfin, on est vraiment pareil de caractère et je pense qu'on a des caractères tous les deux qui sont assez faciles, tu vois, on rentre pas dans le clash, on
ouais.
aime beaucoup discuter et du coup on n'a jamais eu besoin de faire cet effort là
mais t'as raison, je pense que avoir la même vision et les mêmes aspirations
ouais.
c'est très fort.
Ouais.
Parce que c'est
ouais.
vrai, c'est là où travailler ensemble, c'est risqué, oui, parce que du coup, tu es vraiment non-stop avec une personne.
Bien
et voilà, il y a des personnes qui se disent, moi, je pourrais jamais. Mais au final, je pense que du coup, le fait d'être porté par le même rêve ou tu vois, les mêmes
oui.
objectifs,
ouais, exactement.
Ça lie et ça permet ouais, de ne pas avoir à un moment donné l'un des deux qui ne se reconnaît plus dans l'autre
exactement,
ou qui n'aspire plus du tout aux mêmes choses. Donc,
ouais, ne serait-ce que le toit, on en parlait et je me disais, mais moi, je ne pourrais jamais maintenant me remettre avec une personne si elle n'était pas un peu dans la créa, tu vois, si elle n'était
ouais.
pas un peu artiste. Après, à sa manière, hein, ça pourrait être dans la chanson, ça pourrait être... dans le cinéma, peu importe, mais j'aurais du mal à concevoir de partager ma vie avec quelqu'un qui pourrait éventuellement ne pas comprendre ce qu'est l'art pour moi
et
qui ne serait pas passionné. En fait, je crois que ça arriverait même à m'agacer de voir une personne qui n'est pas passionnée, qui n'est pas, tu vois...
Nourrie.
Ouais, nourrie par quelque chose. Et s'il ne comprenait pas que l'art, pour moi, ça a une place aussi importante, je ne suis pas sûre que j'y arriverais. Il y a aussi cet aspect-là où les grandes valeurs, on les partage, où
ouais.
Tu vois, on a tous les deux la valeur de la famille, pareil, je lui disais, mais je me verrais pas avec quelqu'un, tu vois, qui aurait un jugement sur sa famille ou qui me dirait « Oh, la famille, c'est bon, on s'en fout. » Mmh. Tu vois, c'est des quand même des domaines hyper importants pour moi. Et on a les mêmes, donc du coup,
c'est pour ça que ça marche,
c'est fluide, ouais, mmh. Et ça marche.
Et quand vous avez eu votre premier enfant, du coup, assez jeune,
ouais.
Ça a été quand même un challenge, ou est-ce que, enfin, j'ai envie de dire, ouais, ça vous a encore plus rapproché, ou parce que c'est vrai qu'à 23 ans, enfin voilà, moi j'ai 23 ans dans un an, je suis à 10 000 d'imaginer maman, et
ouais.
Et heureusement que c'était le bon, quoi, pour toi,
oui,
parce que,
oui.
Parce que
heureusement,
c'est compliqué,
ça faisait
quoi.
7 ans qu'on était ensemble, donc ouais. c'était un peu moins compliqué, surtout que qu'il n'était plus possible d'avorter, que ouais. Voilà, il était ouais. Là et il n'y avait pas d'autre choix que de faire ouais. Avec. Écoute, sincèrement, les premiers jours, ils ont été un peu compliqués parce qu'on était un peu paumés l'un et l'autre, un peu perdus. J'ai la chance d'avoir un mari, je pense, qui est tout aussi féministe que la plus féministe des femmes et qui m'avait dit « Je suis là, quoi qu'il arrive, et tu prends ta décision, on la prend ensemble, mais toi, je suis là et je gère avec toi. » Et enfin, toi, il m'a pas du tout... renvoyer le truc, il m'a pas du tout accusé de quoi que ce soit, ou, donc il a été hyper compréhensif sur ça. Après, c'était pas une envie qu'on avait tous les deux d'être parents là tout de suite.
Ouais.
Donc c'est pas que c'était pas un enfant voulu, c'était un enfant voulu, mais il était pas attendu là
ouais.
Maintenant
ouais,
tout de suite
ouais,
quoi.
Ouais.
Mais non, sincèrement, ça a été ça s'est bien passé. Moi, je me rappelle juste de l'accouchement où je pense que c'est ce jour-là, tu vois, où j'ai réalisé que toute cette histoire-là, tout ce truc qui se tramait depuis quelques mois, que ce ventre tout rond, que tous les maux que j'avais pu avoir, et bah c'était un vrai bébé. Et du coup, tu vois, j'ai eu un temps où je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est ce jour-là où tout s'est remis dans ma tête, où je me suis
ouais.
dit, mais c'est ça, en fait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bébé? Enfin, je me rappelle même de l'infirmière qui m'avait dit, madame, ça va, vous n'avez pas de réaction, vous êtes contente. Enfin, tu vois, elle me posait les questions, ça va, elle savait dans le dossier que c'était un déni, donc
ouais.
Je pense qu'elle voulait voir s'il y avait besoin d'une aide après ou pas, donc
ouais.
J'étais un petit peu, tu vois, sous le choc, en train de me dire, mais... Enfin, ça y est, c'est ça, en fait.
C'est
je réalise...
un être humain, quoi.
Ouais, c'est fou,
ouais,
c'est fou.
C'est fou ouais.
Moi, je savais pas changer une couche. Enfin,
ouais.
C'est comme toi. J'étais à 10 000 de me dire que j'allais être maman.
Ouais.
Mais non, j'ai l'impression qu'on s'en est bien sorti, qu'on est retombé un peu sur nos pattes et que
ouais.
Et
vous
qu'au final,
non,
c'était chouette. C'était une belle aventure, un peu compliquée, tu vois, au début, quand on l'a appris et l'annoncer, tu vois, à ton boss, à ta famille, t'es enceinte. Déjà, c'est
5 mois en plus.
C'est une étape quand tu
ouais.
dis que c'est de 5 mois, ça en a encore une autre,
ouais.
tu vois. Mais j'ai la sensation que ça a été. Mmh.
Et c'est marrant, je lisais hier justement, je crois, où j'entendais un épisode de podcast d'une femme qui est devenue maman aussi.
Ouais.
Ouais, non, je lisais une légende sur Insta et elle disait que elle n'avait pas eu de baby blues directement après la naissance de son enfant, mais qu'elle l'a eu peut-être un an et demi après, et qu'elle s'était sentie très seule, parce que du coup les gens en parlaient vraiment post-naissance, mais qu'un an et demi ou deux ans après, c'est hyper culpabilisant, parce que tu te dis, mais je suis censée être hyper heureuse, enfin voilà, encore une
ouais.
fois, les attentes de la société, VS, que tu vis vraiment et que tu choisis
ouais.
pas. Est-ce que c'est un truc que t'as expérimenté ou pas? Parce que je trouve ça assez fascinant, en fait, parfois des réactions qu'on
ouais.
peut avoir, qu'on ne maîtrise pas, quoi.
Non, pour Noah, j'ai pas eu ça. Pour Abel, du coup, le deuxième, on était en Espagne à ce moment-là, donc du coup, j'ai accouché en Espagne,
ouais.
et ma famille était venue, mes parents étaient venus avec mon petit frère pour, à ce moment-là, à la date de l'accouchement, pour voir le bébé. Et du coup, tout était nickel. La première semaine où ils étaient là, j'avais mes deux enfants, j'avais mes parents. Et c'est quand ils sont partis que ça m'a fait ça. Parce que d'un coup, je me suis sentie, tu vois, un peu seule au monde.
Ouais.
Je me retrouvais avec le bébé. Alors, il y avait mon mari, il y avait mon premier fils. Mais le fait de voir mes parents partir, là, je...
Ouais, il y a une réaction, quoi.
Ouais.
Ouais.
Et oui, c'est horrible parce que t'es censée être la plus heureuse du monde. Enfin, c'est ce que la société
attend de toi
mmh. et te dit d'être. Et tout le monde t'envoie des messages hyper bienveillants et tu peux pas leur en vouloir de te dire tu dois être trop bien, tu dois être trop heureuse et tout. Et c'est horrible de répondre bah non, en fait, je suis
ouais.
pas trop heureuse
ouais.
alors qu'il y a des femmes qui rêvent d'être maman et qui peuvent pas l'être. Enfin voilà, il y a tout plein de choses qui te fait dire mais si, tu dois être heureuse, t'as ton bébé, c'est censé être la plus belle chose au monde
ouais.
de ta vie. Et moi, ça l'est pour le coup, mais à cette période-là, même si c'était la plus belle chose de ma vie, bah, j'étais, tu vois, j'étais un peu dans le bad de me dire, je suis toute seule, ma famille est loin, il y a le bébé à gérer, le boulot, tu vois, une espèce de mélange de tout ça qui te...
mélange d'émotions qui est difficile à gérer,
Ouais, qui est un petit peu dur à gérer sur le coup. Après, ça part comme ça vient, c'est un peu ce qui est déstabilisant aussi.
C'est vrai, c'est là où on a difficilement de maîtrise, parce que j'allais te demander si... T'avais appris un peu à gérer tes émotions, parce que bon, t'as quand même du coup passé par pas mal de up and downs. Et je pense que même en étant artiste, c'est pas tous les jours facile. Enfin, c'est différent. Est-ce que toi, t'arrives bien à gérer tes émotions, ou est-ce qu'il y a des trucs qui t'aident? J'imagine l'art doit t'aider d'une certaine manière.
Non, je gère très mal mes... je gère plutôt mal mes émotions. Je pense que je suis quelqu'un qui se sent vite surmenée et qui se sent vite trop de choses sur les épaules. À des moments, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu sous l'eau et d'avoir besoin de reprendre de l'air. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper dur pour moi, tu vois, quand t'as plein de mails, t'as plein de projets en cours, plein de trucs à rendre et tout. Moi, il y a des moments où, en fait, juste, je le dis à mon mec, là, il faut que... Viens, on va se promener, il faut que je prenne un bol d'air, parce que, en fait, j'ai l'impression d'étouffer. Mais vraiment, tu vois, ça me... J'en ai le souffle court et c'est hyper dur d'en sortir. Alors l'art, c'est un truc qui m'aide, mais quand je suis au milieu de 1000 projets, pareil, c'est compliqué.
Tu peux pas te prendre une après-midi pour « bon, moi, je suis hop, je vais aller peindre ».
C'est ça, je vais me faire mon aquarelle et je vous réponds après. C'est pas possible. Ouais. Et vivre, tu vois, dans la nature, ça m'a fait du bien, parce que j'ai cet accès, juste en ouvrant une porte... pour être au milieu de la forêt et respirer, et il suffit que je sorte, tu vois, pour reprendre ce fameux fameux bol d'air. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, mais c'est quelque chose que je gère hyper mal. J'ai essayé de faire de la méditation, mais pareil, c'est du temps que tu dois prendre, et j'ai beaucoup de mal à m'attribuer du temps pour moi. Donc après, les enfants, tu vois, ils rentrent à 17h et t'as pas d'autre choix que de fermer ton ordinateur et t'occuper d'eux. Et mine de rien, je pense que ça nous aide à avoir un vrai rythme, d'avoir un vrai truc sain, tu vois, et de pas être... tu vois, en mode sur l'ordi jusqu'à 4h du mat, parce que je pense qu'on serait comme ça. Non, mais sincèrement, je comprends. Et je pense qu'on serait comme ça, mais on peut pas, parce que le lendemain, à 6h, faut être debout pour préparer les enfants, et à 17h, faut être avec eux. Tu peux pas leur dire, tu mets Gulli, et puis moi, je réponds à mes mails. C'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, le fait qu'ils soient là, c'est des petites horloges pour nous, quoi. Ils nous forcent, en fait, à avoir une vie saine, à manger à des horaires, fixe, à prendre des temps le week-end pour être avec eux. Le mercredi après-midi, tu vois, on veut pas les mettre en garderie, on veut les garder. Du coup, ça nous force à prendre ces temps-là.
C'est vrai, c'est très difficile, ce sentiment d'être sous l'eau. Souvent, moi, quand je sens que ça bouillonne trop et que j'en peux plus, vraiment, je respire et je me dis, en vrai... personne ne va mourir.
Oui.
Et tu sais, c'est vraiment de me dire, il n'y a aucune urgence.
On ne fait pas de vie.
Je me rends pas compte, en fait. Enfin, c'est difficile, quand t'as l'impression d'être surmenée, de juste te rendre compte qu'il n'y a pas d'impact, au pire, si t'es en retard, ou si ça se passe pas, ou si... Enfin, tu vois, je veux dire, il y a... Et en fait, c'est dingue, je me dis, notre société nous pousse à avoir cette impression-là, où t'as l'impression que si t'arrives pas à tout faire, le ciel va te tomber sur la tête.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, j'ai besoin parfois de me rappeler dans la journée... j'ai réussi pas à tout faire, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Et c'est un peu le problème, en fait, de pourquoi je suis toujours en retard. C'est parce que du coup, je dédramatise maintenant tellement que je me dis, bon, pire, je suis en retard, tu vois. Bien sûr. Du coup, je finis mon truc, et après, mais c'est pas non plus une solution, mais ça me permet de réaliser qu'en vrai, le monde continue ou je sais pas l'expression, le monde continue de tourner, ou voilà, mais c'est vraiment ce truc de un moment, rien n'est grave.
Bien sûr, rien n'est grave. Rien n'est grave, et c'est peut-être mieux d'être en retard que ça te tue trop tôt de stress, tu vois. Mais même sur, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, je sais pas si c'est un truc qui te le fait aussi, mais des fois j'essaye de pas prendre mon téléphone et j'ai cette sensation de punaise, j'ai pas checké ce qui se passe sur Insta, genre je sais qu'il va rien se passer, que personne ne m'attend là-bas, et que c'est pas grave, en fait, si tu loupes pendant une journée ta timeline, ou si tu loupes la story de machin truc, a priori il va rien se passer de fou, tu vois, mais t'as quand même cette sensation que tu dois aller toutes les 4 heures sur Insta voir la dernière info, ce qui s'y passe, Et je sais pas si toi, t'arrives, tu vois, à couper un peu...
Alors, ouais, alors c'est marrant ce que tu dis, parce que autant quand j'étais plus jeune, j'avais un peu ce FOMO, Fear of Missing Out,
ouais,
de genre, les soirées où je pouvais pas aller, et tout, et un peu ce truc de qu'est-ce qui va se passer sans moi. Sur les réseaux, c'est plus, c'est pas tant ce que font les autres, mais plus, moi, j'ai l'impression d'avoir ce devoir de partager.
D'être là, d'être présente.
Donc ouais, c'est plus, moi, oui, je vais avoir ce que tu décris, c'est dur pour moi de pas faire souris de la journée, tu vois.
D'accord.
Je me dis, enfin, pas on va m'oublier, mais il faut que je montre que je suis présente, et comme en plus, j'adore partager, c'est aussi une envie, mais ouais, c'est pas tant limite, moi je regarde pas les stories des autres et tout, donc c'est pas tant ça que ma présence pour ma communauté, où aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai un vrai devoir. Et voilà, quand je reçois des messages, ouais, tu as des filles qui ont des périodes très difficiles, et donc c'est vrai que j'ai un peu maintenant cette peur de ne pas être là, et j'ai du mal à couper. Après, je pense que je suis le type de personne où ce serait pire pour moi de couper en fait pendant 3 jours,
ouais,
parce que du coup j'ai l'impression que ça me referait voir ce que c'est de ne pas être connectée, et que du coup je reviendrais un peu... Sur les réseaux comme une tarte, tu vois, comme un peu bon bah ouais, maintenant faut recommencer. Je préfère me dire que j'ai un rapport sain à ça, oui j'aime partager, donc oui je partage tous les jours, certains jours plus que d'autres, mais je ressens pas pour l'instant le besoin d'en faire une vraie coupure,
ouais,
et je préfère ça en fait.
D'accord.
Parce que sinon j'ai l'impression qu'il y a un peu une dualité de ça devient un effort et t'es plus contente de couper que de partager, alors qu'aujourd'hui moi je vois pas ça comme un effort mais plus comme quand même un plaisir. Sinon, je ferais pas ce que je fais,
ouais,
tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est dur de le garder ça en tant que plaisir et pas en tant que devoir,
ouais,
parce que voilà, ça devient aussi, enfin, c'est devenu notre métier et il y a ces deux parties-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais très souvent des nouveaux projets. Enfin, du coup, ça fait que 3 ans que je suis sur les réseaux et j'ai fait Insta la première année, YouTube la deuxième, un podcast, La Chance Ma Marque. Enfin, j'ai un peu ce besoin de renouvellement sans cesse pour plus que ça devienne, enfin, pour pas que ça devienne ce truc de. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, tu vois.
Ouais.
Et c'est un peu le défi. Je me demande quand même, mine de rien... Enfin, je me demande pas, parce qu'en vrai, je vis un peu au jour le jour, mais c'est vrai que dans 20 ans, je pense que je ferais quelque chose de complètement différent.
Ouais, t'as besoin de cette nouveauté.
Ouais, j'ai besoin de cette nouveauté. Mais bon, après, tu vois, toi, tu me dis, ça fait quand même 8 ans que tu fais ce que tu fais, mais... Le renouvellement est venu un peu de lui-même parce qu'il y a des nouvelles plateformes, parce qu'il y a des nouveaux usages.
Et toi, t'as des nouvelles envies aussi. Tu grandis, ouais, et ça grandit en même temps que toi. Et heureusement, tu vois.
Ouais.
Et oui, il y a toujours ces nouvelles plateformes sur lesquelles tu dois un peu te former.
Ouais.
Et que tu dois découvrir. J'aurais pas pu faire le blog pendant 8 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, je me serais un peu ennuyée. Mmh. C'est ce qui s'est passé, tu vois.
Ouais, tu t'es lassée, toi, un moment ?
Ouais, à un moment donné, j'ai senti que la photo pouvait m'ennuyer un peu. Et c'est pour ça que je suis partie voir ce qui se passait côté vidéo.
Ouais.
J'avais envie d'avoir la même émotion que j'ai eue la première fois où j'ai eu un appareil photo dans les mains. Et de me dire, waouh, ça fait ça une photo, c'est cool et je préfère ça. Et c'est quoi ce réglage? Si j'appuie sur ce bouton, il se passe quoi? J'avais envie de ça. Et du coup, on a acheté une caméra et on s'est dit, bah, on va faire ce qu'on fait, mais on va le faire en image qui bouge au lieu que ça soit une image figée. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pouvais, enfin que je voulais dire en photo, que j'arrivais pas toujours à dire ou à montrer, et que finalement quand ça bougeait, bah c'était une émotion hyper différente. Que tu vois, capter une atmosphère en vidéo, des fois c'était plus facile qu'en photo. Et et du coup c'est devenu complémentaire les deux. Mais ouais, le blog à un moment donné, ça m'a un peu lassée parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour des sujets, le refaire les mêmes photos. Et YouTube, ça m'a un peu donné un second souffle.
Ouais.
Et aujourd'hui, tu vois, enfin, plus le blog du coup, mais la photo et la vidéo, les deux me plaisent tout autant, mais je ne serais pas capable d'en éliminer un ou d'en choisir un.
Ouais,
c'est trop complémentaire pour moi aujourd'hui, tu vois.
Bon, heureusement qu'il y a toutes ces plateformes pour ne pas avoir à choisir au final. Et je me demande, est-ce que tu as du coup, ouais, tu as toujours eu cette fibre artistique? Comment ça se manifestait quand tu étais petite? Et est-ce que ça s'est bien passé pour toi dans le système scolaire où on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même pas ce qui est le plus valorisé? Ou parfois, je sais que j'ai des amis, moi, qui étaient très créatifs, qui se sentaient vraiment hors système.
Ouais. Écoute, moi, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, je dessine et je fabrique des trucs à partir, tu sais, de rien, de rouleaux de PQ ou de super trucs pour Noël,
petite,
pour faire des cadeaux à tout le monde.
J'adore.
Non, mais depuis toute petite, je suis attirée par ça. Et je pense que depuis toute petite, mes proches, ma famille... a su que ça allait être quelque chose de plutôt artistique pour moi. Ça s'est bien vu pendant le collège, où j'étais très très nulle en maths et tout ce qui pouvait avoir...
Ça me rappelle ta dernière vidéo.
Exactement, un petit côté, cette certaine logique, tu vois, physique, SVT, tout ça, j'étais vraiment très très nulle. Et les deux seules matières dans lesquelles je m'en sortais, c'était le français et art plastique.
Ouais.
Et du coup, direct après le collège, j'ai fait une école d'art.
Trop cool.
Ouais, j'étais à Auguste Renoir, qui est à Paris. Donc c'était un lycée d'art appliqué. Et j'ai passé un espèce d'équivalent bac, mais qui était, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était un brevet technicien dessinateur maquettiste. Et du coup, c'était vraiment un espèce de bac art. Et suite à ça, j'ai fait une mana, c'était une mise à niveau qui te permet un peu de toucher à tout et de savoir ce que tu veux faire. Après, j'ai fait un BTS en communication visuelle, qui était spécialisé dans l'édition. Et comme le web arrivait, on m'a dit il faut que tu te mettes un petit peu dans le web. Donc j'ai fait une licence en multimédia pour apprendre à coder et à faire des sites notamment et tout. J'ai eu de la chance d'avoir une famille qui me suivait sur ça et qui m'a toujours poussée, tu vois, à m'écouter, qui avait un peu peur, je pense, au début, qui m'a dit « Ah, tu sais, pour trouver un boulot dans l'art, c'est un peu compliqué. » mais ils m'ont pas empêché de le faire, ils m'ont accompagnée, c'était des concours du coup pour rentrer dans les écoles, ils m'ont accompagnée, ils m'ont payé mon matériel au début, enfin ils ont été hyper ok avec ça et je pense que j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Je sais que mon mari, lui, aurait adoré faire une école d'art. Et quand il m'accompagnait, tu vois, au lycée et qu'il me voyait rentrer en école d'art, il me disait « Mais punaise, la chance que t'as, j'aurais tellement aimé faire ça. Moi, c'est ça que je voulais faire. » Mais et même aujourd'hui, tu vois, je reçois plein de messages de jeunes filles ou de jeunes hommes qui me disent « J'aimerais trop faire une école d'art, mais mes parents préfèrent que je fasse un truc un peu général et qu'après, je fasse de l'art. Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour leur faire changer d'avis ? Moi, je sens bien que c'est ça que je veux faire.
Ouais. »
Et je me rends compte que c'est hyper compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je vais être sur les réseaux. C'était pas mon envie première, vu que j'ai commencé un peu comme ça. Sans raison particulière, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai la sensation que sur les réseaux, on a un peu chacun et chacune notre petite mission. Alors, on peut pas défendre tous les combats du monde. Souvent, on dit « Ah, tu fais une collab, enfin, une collab entre guillemets avec cette association. Pourquoi tu défends pas ça ?» Et, bah, parce que j'aimerais, mais juste, on peut pas tout défendre. Et voilà, ça demande une énergie.
À justifier ça.
Oui, ça demande une énergie folle. Et c'est pas du favoritisme. Exactement, il y a un peu d'affect. Forcément, il y a des sujets qui vont me toucher un peu plus. Mais si je pouvais défendre toutes les causes du monde, évidemment que je le ferais. Mais c'est dur des fois de leur expliquer gentiment qu'on n'est pas Mère Teresa et qu'on on aimerait, mais on peut pas, on n'est pas rémunéré non plus pour ces choses. Et comme vous, on doit juste manger, donc on doit aussi travailler des fins.
Gérer son temps, en fait, c'est très compliqué.
Exactement, mais je me dis qu'on a quand même chacun, chacune, un peu un message qu'on veut faire passer, une petite mission. Et tu vois, moi, assez rapidement, je me suis dit que c'était l'art que je voulais vraiment promouvoir, entre guillemets, sur mes réseaux. Et ça me faisait trop mal au cœur de voir que l'art arrivait à mourir un petit peu tout doucement, qu'il devenait presque un peu ringard, que les gens ne pensaient plus forcément aller au musée ou à des expos, que les jeunes allaient plus trop faire les portes ouvertes des écoles d'art parce que c'était vu comme un truc un peu... tu vois, soit bobo, soit artiste, enfin, que c'était pas forcément bien vu, qu'on allait plus regarder les vieux films, tu vois, français en noir et blanc, parce que c'était un peu cheap. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qui me faisaient un peu de peine sur ça. Et ouais, je me suis dit que moi, c'était un peu la cause que je voulais défendre. J'avais envie que l'art, il reçoit un peu, entre guillemets, à la mode et que les jeunes s'y intéressent de nouveau, pourquoi pas, à y faire des écoles d'art. Et du coup, c'est vrai que j'ai souvent ces retours-là où on me dit « Ouais, mes parents, ils veulent pas. » Et je peux comprendre maintenant, en tant que maman, tu vois, que ça puisse faire un petit peu peur. Et en même temps, je me dis « Il y a tellement de choses à faire dans l'art et on a tellement besoin d'artistes. On a tellement besoin de ça dans notre monde et même dans les métiers d'aujourd'hui, tu vois.
»
Et non, moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui m'ont, qui m'ont bien accompagnée.
En fait, je trouve que c'est hyper dommage que les parents soient toujours un sujet. Enfin, tu vois, c'est voilà, t'as des parents, c'est très cool, mais c'est pas toi.
C'est ta vie, ouais.
Et en fait, c'est vrai que ça revient tellement, ce sujet, et j'en parlais avec Léa de Je ne suis pas jolie, qui a un rapport hyper intéressant à l'éducation, et elle le dit même pour tout, en fait, elle dit, mais il faudrait qu'on arrête de traiter les enfants comme des personnes qui ne sont pas des êtres humains, en fait.
Ouais.
Elle dit, c'est incroyable ce qu'on peut se permettre de faire à un enfant, ou de dire à un enfant, et... Enfin, c'est vrai que enfin, moi, j'ai été frappée, entre guillemets, enfin, je veux dire, les fessées ou les baffes. Ou... C'est pas un jouet, un enfant.
Ouais,
et c'est vrai que je sais pas si c'est parce qu'on vit dans une société où, tu vois, il y a un peu après le problème, on va te dire qu'on tombe dans un extrême, qu'il y a l'enfant roi. Non, mais en fait, je pense qu'il y a quand même vraiment toujours eu ce problème de ça date de nombreuses années et de siècles, mais où on a l'impression que c'est une espèce d'animal, l'enfant, qu'on doit dresser. Et je trouve ça, aujourd'hui, avec le recul, assez dérangeant. Moi, je sais que je me suis vraiment... Un truc que je retiens de mon enfance, c'est cette pensée que j'ai eue de très nombreuses fois, ils verront plus tard. Et je ne traiterai pas les enfants comme ça, en fait.
Ouais.
Enfin, vraiment, cette sensation d'être infantilisée, non considérée, hyper dérangeante. Alors, peut-être que ça dépend d'un enfant à un autre, mais même si on n'a pas une maturité forcément incroyable, et c'est le principe de la maturité de venir avec l'âge, je pense que c'est hyper important de faire des erreurs, de tomber, de se relever, de s'écouter, de considérer, en fait, l'enfant et de pas, en fait, lui faire croire qu'il doit suivre ce que des gens lui disent de faire sous prétexte qu'il est mineur. Enfin, tu vois, c'est absurde,
c'est...
quoi.
Mais,
quand on y pense, c'est conventionnel, une majorité. C'est une loi, c'est pas scientifique,
quoi. Oui, tu passes
quoi.
Pas du jour au lendemain à quelqu'un de majeur.
Ouais, et tout d'un coup, hyper responsable, tu peux aujourd'hui choisir ce que tu veux faire de ta vie.
Oui, sur ça, enfin... En fait, c'est juste qu'un enfant, c'est un être à part entière et qu'on doit apprendre à respecter. Et tu vois, moi, c'était un des premiers trucs qui m'avait marqué, c'est qu'on me disait que quand j'allais avoir mon bébé, quand j'étais enceinte du coup de Noah, que tu vas voir, dès qu'il va être là, tu vas l'aimer directement. Et en fait, c'est horrible, mais j'ai pas la sensation de l'avoir aimé directement. Oui, c'est un bébé, et comme tous les bébés du monde, bah, c'est attendrissant, c'est mignon, t'as pas envie de lui faire du mal, t'as envie de le protéger. Et évidemment que j'étais touchée par ce petit être. Tu vois, c'est évident qu'il se passait un truc en moi et qu'il y avait un début d'amour, si j'ai envie de dire. Enfin, il se passait quelque chose. Évidemment, c'est ton bébé. Mais je me suis pas sentie... ça y est, je l'aime, c'est le mien, il est sorti, je l'aime. Tu vois, il a fallu que j'apprenne à le connaître, qu'on apprenne à se connaître, d'ailleurs, l'un et l'autre, que je me fasse à lui, que je le regarde, que... Et oui, petit à petit, je suis tombée amoureuse de lui, mais j'ai pas eu ce truc. Alors, peut-être que ça arrive à des femmes, on est tous très différentes, mais... Il n'est pas sorti de mon ventre et je ne me suis pas dit « ça y est, c'est mon fils, je l'aime ». Tu vois, je me rappelle, j'ai mis des semaines et des semaines à dire juste « mon fils » ou à dire son prénom. Genre, je disais « le bébé » parce que ça me paraissait trop bizarre de dire « mon fils ». C'était mais pour moi, mais tellement...
Vous avez 23 ans.
Oui, puis c'était un déni, donc c'était très bizarre, tu vois. Mais...
Et un déni, juste, je me demande, c'est provoqué par quoi ? J'ai une grosse...
J'en ai aucune idée.
On t'a pas expliqué.
Non, j'ai trouvé, d'ailleurs, maintenant avec le recul, parce que j'ai plus de 30 ans et que j'ai eu un deuxième enfant, et je trouve qu'avec le recul, c'est fou qu'on m'ait pas plus entourée, qu'on m'ait pas plus expliquée, parce que je pense que ça aurait pu être un petit traumatisme, je pense que j'aurais pu déprimer, que j'aurais pu mal le vivre, et en fait, tu vois, à aucun moment on m'a demandé si je voulais voir un psychologue à l'hôpital, si je voulais en parler avec quelqu'un, comment je le vivais. Alors oui, il y avait ma famille, mais j'ai pas eu à l'hôpital, personne m'a dit « est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que vous avez besoin les premiers jours de quelqu'un avec vous ?» Enfin, tu vois, avec du recul, je me dis « punaise, c'est dur, j'avais 23 ». Ils m'ont donné ce bébé là dans les bras, je savais pas trop comment faire, enfin tu vois, c'était un peu
il y a un manque d'accompagnement
un peu flou, et avec le recul je me dis que c'est fou, et non, je me suis jamais tellement renseignée dessus. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que j'avais pris 0 kilo, que j'étais comme tu me vois aujourd'hui, que j'avais mes règles, tout était normal dans ma vie. En fait, j'ai juste commencé à prendre de la poitrine et elle commençait à être douloureuse. Et j'en ai parlé à des potes et en soirée pour déconner, elles m'ont dit « mais t'es enceinte et tout ». Et moi, je leur disais, mais non, je prends la pilule, j'ai mes règles.
Ouais.
Et j'ai fait ce test, tu vois, pour un peu déconner avec elle. Ouais. Et sauf que, on n'a pas trop rigolé, en fait, parce que c'était positif. Et que quand j'ai eu mon premier rendez-vous chez la gynéco, quand elle m'a ausculté, elle m'a dit, mais écoutez, oui, alors en effet, je vous confirme que vous êtes enceinte, mais en fait, c'est un bon bébé, je sens sa tête. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Quelle tête? De quoi? Pour moi, c'était, tu vois,
c'est
une lentille,
hyper bizarre
quoi,
quand ça après. Arrive comme ça, quoi.
Ouais. Et écoute, deux jours après, j'avais un ventre de femme enceinte de 5 mois, tu vois, c'est sorti en...
C'est tellement psychologique.
Ouais.
C'est là où on se rend compte de la puissance du cerveau.
Exactement. Hein.
C'est un peu flippant,
c'est
d'ailleurs.
Incroyable.
Ouais.
C'est incroyable. Mais j'ai jamais su le pourquoi du comment. Et tu vois, Noah, aujourd'hui, c'est un petit garçon qui est assez timide et qui a tendance à tout le temps s'excuser de tout. Mmh. Tu vois, il est tout le temps désolé. J'ai l'impression que c'est un enfant qu'on frappe, tu sais. Désolé, maman, pardon. Et on est là à lui dire, mais c'est rien, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave, t'as renversé ton verre jus d'orange. Et il est toujours désolé de tout. Et on avait été voir une psychologue par rapport à ça parce qu'on voulait comprendre. Et en fait, elle, on ne lui a pas parlé de ce déni. Et dès le début, elle nous l'a dit, en fait. Elle nous a dit, mais il y a eu un souci pendant la grossesse, avec l'allaitement, il s'est passé quelque chose. Mmh. Et elle me dit, mais psychologiquement, ça reste en fait chez lui. Et on a l'impression qu'il s'excuse presque d'être là, en fait.
Ouais, ouais.
Et c'est fou, tu vois, quand elle nous a dit ça, on s'est dit, mais c'est dingue que même lui soit impacté par ça. Et qu'ils s'en souviennent. Donc on lui a expliqué comment il est arrivé et que c'était une surprise, mais qu'on était hyper heureux de ça, que
c'était comme Noël.
Tu vois, mine de rien, une des plus chouettes surprises qu'on ait jamais eues, quoi.
Ouais,
pour un peu tu vois, dédramatiser,
essayer de débloquer un truc en lui aussi,
qui se sent pas mal toute sa vie pour un truc mais tellement trop cool. Et c'est fou, mais j'ai jamais creusé, tu vois, sur le déni.
De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'explication universelle. Hein.
Non,
ça doit être.
Non, ouais.
Mais c'est vrai que, ça, c'est. Je crois que j'avais entendu une amie d'amie, elle, c'était 7 mois. Donc,
ouais.
T'as 2 mois de grossesse, en fait, je trouve qu'il y a un problème.
Mais il y en a, ça arrive jusqu'au jour J, tu sais, avant l'hôpital, parce qu'elles ont mal au ventre et elles repartent avec un.
Ah ouais.
Avec
un
tout petit, quoi. Et ouais.
Ça, c'est dingue. Je sais pas du tout pourquoi on parlait de ça.
Eh ben, je ne sais pas.
Ouais, j'étais coupée un moment parce que j'avais cette interrogation depuis le début. Mais déni de grossesse, est-ce qu'il y a eu une raison? Non, mais écoute, je crois qu'on parlait d'éducation, d'enfant, considérer l'enfant pour ce qu'il
est. Exactement, tu me demandais pour l'art, pour les personnes. Moi, si j'avais rencontré des problèmes dans cette voie. Et non, bien heureusement, non. Mais tu vois, je vis encore des messages privés de personnes qui aimeraient, mais qui ne sont pas soutenues par leur famille.
C'est très dur aussi, mine de rien, ce rôle sur les réseaux.
Bien sûr.
Parce qu'on aimerait tellement répondre à tout le monde, mais de un, c'est impossible, et de deux, on ne peut pas choisir à leur place.
Exactement. Moi, je ne suis pas forcément garante,
mais
tu vois, d'un choix de vie,
tu
ne
peux pas
lui
dire,
en fait.
Fais ça.
Mais oui, exactement.
Tu ne la connais pas, en fait.
Exactement, exactement. Et puis si jamais ça venait à ne pas lui plaire, tu vois, moi, j'ai pas envie d'être garante d'une tâche aussi lourde que ça. Donc, à part leur dire... que dans la vie, il faut s'écouter et que si jamais, tu vois, le rêve n'est pas possible tout de suite, on peut aussi le garder de côté et continuer à travailler de côté et viendra le jour où ça sera la personne de décider, tu vois. Mais c'est hyper dur de lui dire, va voir ta mère,
dis-lui que c'est fini,
exactement.
Tu quittes la maison et tu pars peindre
et pars
à Paris.
Peindre, oui, exactement, à Montmartre, tu vois. Non, mais je ne fais pas...
carrément.
Mais j'ai quand même de nombreux retours sur ça, sur l'art. Et,
je trouve ce qui permet peut-être de désdramatiser et d'y voir plus clair, c'est de se dire que dans tous les cas, on peut toujours rebondir.
Ouais.
Je trouve que c'est un truc hyper rassurant.
Il y a n'importe quel âge maintenant.
À n'importe quel âge.
Plus ça va, plus tu peux te reconvertir.
Tu peux reprendre des études, tu peux changer de métier, tu peux... Enfin, je trouve ça très libérateur et surtout de se dire que, mine de rien, grâce à Internet, tu peux te former à ce que tu veux.
Exactement.
À ce que tu veux. Et même si c'est pas des métiers. Ah, je crois qu'il y a un point aussi dont je voulais qu'on parle où tu disais qu'il y a plein de métiers dans l'art. En fait, c'est vrai. Et puis surtout, il y a plein de métiers partout. Enfin, il y a tellement de métiers dans ce monde. J'ai l'impression que si on écoute la société et très souvent nos parents, t'as 3 métiers dans le monde, médecin, avocat et journaliste.
Tu vois.
Mais tellement pas. Je veux dire, aujourd'hui, enfin, t'as des gens qui sont hyper heureux. Moi, j'ai rencontré récemment les mecs archéologues qui étudient les fossiles, mais un truc hyper précis, c'est que des fossiles d'insectes et c'est sa passion. Il a un compte Instagram autour de ça. Et en fait, tu te dis, mais aujourd'hui, pour moi, rien n'est impossible et rien n'est trop fou. Et en fait, il y a tellement de métiers auxquels on ne pense même pas.
Exactement.
Et je trouve ça hyper dommage. Je veux dire, moi, enfin voilà, c'était il n'y a pas si longtemps pour moi le lycée que ça. Et aux journées orientation au métier, c'est toujours les mêmes.
Ouais.
Toujours les mêmes.
Ouais.
Et notamment, je trouve une sous-représentation des métiers manuels que je trouve très dommage. Et je sais que j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui pensent aujourd'hui à faire de la boulangerie ou de la pâtisserie parce que, heureusement, grâce aux médias, il y a une espèce de renouveau et de passion pour la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine. Et je trouve ça hyper cool parce que c'est vrai que voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les métiers et il y a des gens qui sont hyper heureux en faisant de la recherche et en bouffant des livres tous les jours. Mais il y a aussi un truc, j'ai l'impression, très fort avec tout ce qui touche à l'art de manière générale. Ouais. Avec les métiers manuels, où il y a vraiment une passion qu'il n'y a pas dans les métiers académiques. Et en fait, ça peut nous rendre vachement plus heureux, alors qu'aujourd'hui, il y a un peu cette dualité, j'ai l'impression, prestige, VS, juste bonheur, en fait.
Ouais,
de moi, ce qui me fait vibrer, c'est de m'occuper des plantes, ou de dessiner, ou de cuisiner. Et pour moi, il faut vraiment faire appel à cette voix avant tout, quoi.
Ouais.
Parce que qu'est-ce que le prestige, si c'est vide derrière, tu vois ?
Ouais.
Et c'est hyper dangereux,
ouais.
quoi.
Ouais, ouais, ce... Ouais. Et puis, maintenant, il y a un nouveau truc aussi, ce qui est Internet, tu vois.
Mmh.
Et tu peux presque te créer un métier sur mesure. Et ça, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Et on ne peut plus dans l'art. Qu'est-ce qui t'empêche, tu vois, de t'écouter, de te créer ta page Insta et tu vois, d'en faire ton expo, d'en faire ton livre.
Ton journal,
tu vois, si on ne te donne pas cette opportunité, parce que
bah,
la vie ne peut pas toujours te donner les opportunités auxquelles tu aspires ou tu rêves, si on ne te donne pas cette opportunité, mais crée-la toi en fait. Fais ton compte Insta et vas-y, tu voulais exposer dans une galerie, on ne te le propose pas. Mais t'as pas besoin, tu peux avoir ton compte, tu peux exposer tes œuvres et tu pourras peut-être toucher plus de personnes au quotidien que de visites que t'aurais dans une galerie.
Carrément.
Et tu pourras t'approcher par des personnes du monde entier parce que dans ta galerie, bah, t'auras les passants mais t'auras pas, je sais pas, un mec du Japon peut-être, tu vois. Et il y a ce truc-là, tu vois, d'Internet et je me dis mais... Il n'est pas toujours utilisé dans l'entièreté de tout ce qu'il pourrait nous offrir et nous donner.
C'est vrai.
Et je trouve ça tellement dommage parce que qui te dit en fait que Insta, ça doit être juste un support pour montrer tes vacances ou tes selfies ou tu vois, ta frite au McDo ou j'en sais rien.
Ouais.
Qui te dit ça en fait ? Qui t'impose ça ? Alors ok, il y a ceux qui te diront, bah non, Insta, faut que ça soit, faut arrêter que ça soit un peu fake et tout. Oui, ok, et ça peut aussi être, tu vois, un endroit où... Je sais pas, où tu peux être mannequin, un endroit où tu peux être journaliste, un endroit où tu peux montrer tes films, tu peux être réalisateur, tu peux être tout ce que tu veux en fait. C'est ta galerie, c'est ton endroit à toi et personne t'impose rien sur cet endroit.
Ouais.
Donc expose-toi en fait, tu vois, ou expose ce que tu sais faire, mais juste, il y a ce truc aujourd'hui qui existe qu'on a la chance de connaître. Et tu vois, je me dis, il y a plusieurs années, il y avait pas Internet, on n'avait pas cette chance de pouvoir s'auto-exposer, s'auto-publier, enfin. Et c'est ce que je leur dis, ok, vos parents ne veulent pas tout de suite, mais là tu m'écris d'Insta, donc t'as un téléphone, t'as un compte, donc tu peux peut-être t'en faire un deuxième et attends pas en fait, vas-y. Et
carrément.
Tu sais pas en fait où ça peut t'emmener tout ça. Moi, je l'ai ouvert. Tu vois, avec aucune ambition derrière. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Et j'ai pas attendu qu'une maison d'édition vienne me voir ou tu vois, qu'une galerie. Ouais, il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses à faire. Et maintenant, on a cette puissance-là. Et je me dis que c'est presque dommage que les gens aient pas conscience de, tu vois, de la puissance qu'ils ont entre les mains et de ce qu'ils pourraient en faire. Et même si ça commence de plus en plus, j'ai l'impression que la génération, la nôtre et celle juste après, commence à sentir, tu vois, qu'il y a un vrai pouvoir avec les réseaux. Mais ouais, c'est ce que je leur réponds, de faire déjà avec ce que là, ils ont entre les mains. Et si ça doit prendre, ça prendra.
Et surtout qu'au final, on ressort toujours beaucoup plus de satisfaction quand on s'est battu pour que quand on s'est servi sur un plateau, quoi.
Mais complètement.
Et ouais, t'as totalement raison avec tout ce que tu viens de nous dire. Et comme je dis souvent, trouvons les solutions plutôt que les problèmes.
Ouais.
C'est plus facile d'avoir les problèmes, hein. Ça demande de l'effort de trouver des solutions, mais si on les cherche bien, elles sont là.
Ouais.
J'ai envie de te poser quelques petites dernières questions, Natacha. Bah déjà, comme quand même, j'ai la chance d'avoir une artiste sur le podcast. Est-ce qu'il y a des œuvres, des créations, des livres, des courts-métrages qui t'ont particulièrement touché, que tu aimerais peut-être partager aux personnes qui nous écoutent pour leur faire vivre voilà, quelque chose de particulièrement fort?
Alors écoute, moi je m'inspire énormément des films. Je pense que c'est le cinéma, c'est une de mes premières inspirations, tu vois, sur les plans, sur le film qui me touche le plus, c'est À bout de souffle, qui est un vieux film, mais qui est magnifique, sur Paris, en noir et blanc, qui est une histoire d'amour magnifique, et les plans sont incroyables. Je m'inspire aussi beaucoup des séries coréennes, il y en a tellement à conseiller que je ne saurais par où commencer, mais il y a un autre film qui s'appelle Carole, qui est vraiment très beau, pareil, qui est très cinématographique, qui chaque pose sur le film, on dirait une photo, et c'est hyper inspirant. Après, dans les livres, je suis très vieille littérature française que beaucoup trouveront peut-être très chiante, mais moi je trouve ça juste magnifique. Je lis énormément de poèmes.
D'accord.
C'est un truc que j'adore, mais dans les livres, toute la littérature russe, moi, c'est des choses que j'adore, qui m'inspirent énormément. Et j'aime beaucoup Tolstoï. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup Lolita. J'aime beaucoup de Nabokov, du coup. J'aime beaucoup la littérature russe aussi française. J'adore l'œuvre de Zola. Je pense que c'est mon livre préféré. Et après, il y a les mangas qui m'inspirent énormément aussi. Si je devais en citer quelques-uns, je dirais peut-être Amer Béton, qui est magnifique dans les dessins, et moi qui m'inspire à chaque fois que je les regarde. Et pareil, je m'inspire énormément de l'édition japonaise et coréenne. Ils ont une manière de faire leur mise en page, de faire leurs photos, qui est assez incroyable. Et sur Insta, je suis énormément de photographes coréens d'ailleurs, et japonais. Et je trouve qu'ils ont une poésie que j'ai du mal à retrouver à des moments en France, alors qu'on devrait être au top niveau poésie, mais que j'ai un peu du mal à retrouver aujourd'hui. Mais c'est assez soit très français, soit très asiatique.
Super. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast.
Si tu as besoin de liens, je te les redonnerai.
Trop cool. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Je pense que pour moi, c'est l'intuition, écouter son intuition. Moi, je crois que ça a été la vraie chose qui m'a un peu, entre guillemets, sauvée, c'est que je me suis toujours écoutée moi et j'ai toujours écouté mon intuition et mon feeling. Et je pense que c'est un truc que tu développes, et que plus tu écoutes cette petite voix, et plus elle vient, plus tu l'écoutes. Et voilà, que ça grandit un peu comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire confiance et à écouter leur intuition. Et moi, c'est un truc que j'ai vraiment toujours fait. Je le travaille, en fait. J'ai envie de m'écouter. Et quand il y a quelque chose que je sens pas, un mail, une marque, quelqu'un, je m'écoute, en fait. Même si tout a l'air trop beau et que je sens que c'est non pour moi, je préfère dire non. Et quand je sens que c'est oui et que tout le monde me dit « Ah, ton truc un peu casse-gueule » ou tu vois, quand j'ai arrêté mon taf pour le blog, tout le monde me disait « Ah, t'es sûre » et tout. Je me suis toujours écoutée et pour moi, c'est ça. Avoir vraiment le pouvoir sur sa vie, c'est s'écouter soi et sa petite voix avant d'écouter ce que tu me disais, ce que la société peut vouloir nous faire dire ou tout ça. Donc je pense que c'est l'intuition pour moi.
Super, c'est vrai que c'est une grande force, et comme tu dis, il faut, je pense, renouer avec, parce qu'on essaye de nous l'éteindre. Et c'est rassurant de savoir que ça peut se pratiquer, et que c'est pas certains naissent avec et d'autres
non. Je pense qu'on en a tous, mais parfois
elle est enfouie, quoi.
Elle est là, et après il y a la télé qui nous met autre chose dans la tête, et la voisine qui te dit que non, ça c'est pas bien, et on est tellement ouvert et sollicité sur tout ce qu'il y a autour, que des fois on a du mal, en fait, à juste se mettre dans sa bulle et s'enfermer avec soi-même juste s'écouter. Et ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est ce qui m'a fait du bien, c'est de me couper de tout ça et d'être dans ma bulle toute seule, dans mon coin,
dans la nature, dans la forêt.
Mais au moins, comme ça sonne un peu hippie, mais au moins, je m'écoute, tu vois, je prends le temps de m'écouter et de me centrer.
Il y a moins de distractions, en fait.
Exactement,
c'est ça, hein, c'est
on est tellement sollicité partout, par ces pubs, partout, que j'ai l'impression que tu trouves même plus le temps.
Le cerveau marche un peu trop, quoi.
Ouais, exactement.
Trop cool. Bah, merci beaucoup, Natacha, d'être venue sur InPower. Ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais pour aller voir ton travail, où est-ce qu'on les redirige ?
Je pense, du coup, sur Instagram, qui est devenue la plateforme numéro une. Après, pour ceux qui veulent plus creuser, je dirais ma chaîne YouTube, où c'est là où je m'exprime le plus avec le cœur, je pense, où je me fais le plus plaisir, même si sur Instagram, je crois déjà bien m'amuser. Et voilà.
Ok, super. Je mettrai aussi ça dans les notes du podcast. Et j'espère à très bientôt.
Merci.
Bye. Bravo à toi d'être arrivé à la fin de cet épisode. On reconnaît les vrais. Si cet épisode t'a plu, tu peux nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant @natashabirds et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et te remercier personnellement. Tu peux aussi conseiller cet épisode à des amis à la recherche d'inspiration et nous rejoindre sur Instagram @inpowerpodcast pour découvrir en exclusivité les prochains invités. Je suis vraiment contente de te compter dans la famille InPower et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.